Gloire à Dieu. On va commencer une étude sur un nouveau sujet qu'on va être là-dessus pendant une couple de semaines. Le sujet, c'est sur le Saint-Esprit. Une belle étude qui va nous faire comprendre un peu, pas juste un peu, ça va être un peu plus en profondeur parce qu'on va voir différents aspects sur le Saint-Esprit. On va apprendre à connaître le Saint-Esprit. C'est vraiment extraordinaire, toute la richesse, toute la quantité de versets qui parlent du Saint-Esprit, c'est puissant, c'est nourrissant, c'est bénissant, puis c'est excitant, parce que moi, parler du Saint-Esprit, je pense que c'est la chose, c'est le sujet qui m'intéresse le plus, parce qu'on le sait que nous, en tant que chrétiens, ce qui a commencé à changer notre vie, c'est lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est qu'est-ce qui va continuer à nous garder, à nous enseigner, à nous conduire et à nous garder jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit. Puis il y a rien qui est plus important. Ben il y a bien d'autres sujets qui sont importants quand tu parles de Dieu, de Jésus, mais le Saint-Esprit en tant de qu'est-ce qu'il est, c'est extrêmement important qu'on apprenne à le connaître, qu'on apprenne à connaître les différentes choses que la Bible nous enseigne là-dessus. Puis je crois que s'il y a autant de versets qui parlent de ce sujet-là, de cette personne-là, s'il y a autant de sujets de versets qui en parlent, c'est parce que c'est important qu'on apprenne ce qui est là. Parce que c'est des révélations. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est des révélations. C'est que le Saint-Esprit a parlé à travers des messagers, des gens de l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, à travers Jésus, à travers les apôtres. Puis toute la richesse du bagage de révélations nous est donnée dans la Bible. La Bible, c'est le livre qui nous donne toutes les choses que nous devons savoir. Puis quand il parle de peu importe le sujet que la Bible parle, c'est un sujet important. Tout ce qui était mentionné dans la Bible, c'était ce qui était nécessaire à ce qu'on apprenne. Quand il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, puis enseignez-leur, mais ce que les disciples ont fait, c'est en écrivant les écrits des évangiles et les écrits des épîtres, c'était dans le but d'enseigner les disciples et d'en faire des disciples. Oui. Puis si tu veux devenir être un disciple, le seul moyen, ça commence par la révélation de la connaissance de Dieu. Ce que Dieu nous a révélé. Après ça, c'est qu'est-ce que tu vas vivre avec tout ça. Quand tu vas l'avoir reçu, tu vas avoir la connaissance qui embarque, puis après ça, tu vas avoir la pratique, les expériences, la transformation. Mais tout commence au niveau de la connaissance. Parce que si on n'aura rien appris de ce qui est sur Dieu, puis son plan du salut, puis tout le kit, on ne sera pas sauvé. Il a fallu qu'on l'apprenne. Puis pour l'apprendre, il a fallu que quelqu'un nous en parle. Puis tout ça sort de la Bible. Fait que le sujet, comme introduction, en parlant du Saint-Esprit, on va parler d'un des plus grands mystères de la vie. C'est un être invisible, inconnu des gens du monde, mais qui agit depuis le début de la création. Il agit même avant que la création soit faite, parce qu'il existait de toute éternité avec Dieu. Mais on va comprendre le déroulement de son rôle, qu'est-ce qu'il est, quel est son rôle dans cette vie, en lisant les différents passages. Dans Jean 14, le verset 16, ça nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, « Et moi, je prierai le Père, puis vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, puis ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, puis il sera en vous. » La base de ce que je vous commençais à vous expliquer, c'est le plus grand mystère de la vie, c'est un être invisible. C'est pour ça que c'est un mystère. C'est quelque chose d'inconnu pour l'ensemble de l'humanité. Ça nous dit dans ce passage-là que le monde ne peut pas le recevoir. Puis la raison pourquoi ils ne peuvent pas le recevoir, c'est parce qu'ils ne le voient pas, puis ils ne le connaissent pas. Parce que souvent, le monde cherche ce qu'il voit. Fait que quand le monde se fonde une religion, ils se font un dieu en statue parce qu'ils aiment voir leur Dieu dans une statue, dans une image. Le monde a de la misère à s'imaginer quelque chose d'invisible. Mais s'ils connaîtraient le Saint-Esprit, ils s'apercevraient qu'il est bien plus grand que leur statue, puis leurs idoles, puis leurs photos, puis tout ce que c'est. C'est l'être éternel, créateur de toutes choses, qui est là à chaque jour autour de nous, mais il est invisible. Puis c'est, ça dit que le monde ne le connaît pas. Pourquoi qu'il ne le connaît pas? C'est parce qu'ils vont pas à Jésus, puis à la source de la révélation de la Bible, pour comprendre qui est le Saint-Esprit. Puis ils demandent pas à le connaître, ils cherchent pas, fait qu'ils le trouvent pas. Puis vu qu'ils le cherchent pas, ils veulent pas le connaître, fait qu'ils ne le voient pas, puis ils voient pas aucune de ses actions. C'est comme si il y a des gens qui vont arriver auprès des gens du monde, vont dire « Le Saint-Esprit a répondu à une prière. » Là, ils vont te regarder, ils vont dire « De quelle planète qu'il vient, lui? » Ou « J'ai senti la présence du Saint-Esprit dans la réunion, je t'ai rempli. »
Saisi
par l'Esprit, puis je me suis mis à prophétiser ou à parler en langue. Puis là, il y a des choses où il y a quelqu'un qui a prié pour l'autre dans le nom de Jésus, puis le Saint-Esprit a guéri la personne. Mais ça, là, tu racontes ça à quelqu'un dans le monde qui connaît pas le Saint-Esprit, lui, il est perdu parce qu'il voit pas le Saint-Esprit, il ne le connaît pas. Puis c'est à cause qu'il voit pas puis qu'il connaît pas qu'il ne le recevra pas.
Oui.
C'est ça que ça dit dans ce verset-là. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il voit pas puis il connaît pas. Parce que s'il connaîtrait le Saint-Esprit, il verrait le Saint-Esprit puis il le recevrait le Saint-Esprit. Comme nous, on était des gens dans le monde. Ben, avant de connaître Dieu, on le connaissait pas. Mais on écoutait quand quelqu'un nous en a parlé, par exemple.
Il nous a convaincus
quand on écoutait celui qui nous a témoigné, puis il nous a parlé du Saint-Esprit. Puis là, on a dit, on veut être sauvé, on veut être pardonné de nos péchés. Puis là, on a cru que Jésus était mort sur la croix. Puis là, on l'a accepté comme notre sauveur personnel. Puis là, on a voulu le Saint-Esprit, puis on a prié pour l'avoir. Puis notre vie a commencé à changer à partir de ce moment-là. Puis on a commencé à vivre des expériences. Puis là, on est comme différent du reste du monde à cause qu'on connaît le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il est comme un agent qui agit secrètement dans la création puis dans le cœur de l'homme. C'est pas de quoi qui est tout le temps visible. Ça peut arriver qu'il se passe des signes visibles de sa présence. Quand il y a eu la Pentecôte, qu'il y a eu un vent impétueux, les langues de feu sont venues. Tout le monde, les 120, ont vu des langues de feu spirituelles. Là, c'était pas invisible, c'était visible. C'était posé sur chacun d'eux. Ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Ça, quand tu vois un signe de main, là, tu dis, là, je le vois, le Saint-Esprit. Mais en temps normal, dans les réunions, tu peux goûter la présence du Saint-Esprit sans le voir. Le Saint-Esprit agit même si tu le vois pas. T'as pas besoin de le voir. Tu sais qu'il est là. Puis c'est par la foi qu'on a accepté cette idée-là, d'accepter de comprendre que le Saint-Esprit est là autour, puis là, on le voit agir dans nos vies. On voit des exaucements. Dans Jean 3,8, ça nous dit, « Le vent, il souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Le vent, là, on l'entend le bruit, mais on l'a jamais vu, le vent. Tu peux voir les effets du vent.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.
Exact. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand quelqu'un est né de l'Esprit, il a passé par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est entré en lui, mais cette personne-là, il s'est passé de quoi que ça se voit pas à l'œil, t'as pas vu le vent passer. Mais t'en entends le bruit, mais c'est la même chose pour quelqu'un qui est né de l'Esprit. Tu vois pas le Saint-Esprit entrer, mais tu vois sa vie qui change. Tu vois l'effet du Saint-Esprit dans sa vie. La personne est transformée. Il y a plein de choses que la personne est délivrée. Puis la personne va être guérie. Je te dis pas que la personne tombe parfaite. Mais Jésus, il était parfait. Les disciples ne le sont pas, puis il n'y a pas une personne qui l'est. Puis les autres qui sont là, qui le regardent, mais il faut regarder les œuvres de l'esprit et non pas les œuvres de la chair. Mais le Saint-Esprit agit secrètement dans la création, puis agit dans le cœur des hommes quand il vient puis qu'il rentre dans une personne, la vie de la personne est transformée. C'est un agent invisible, mais qui est puissant. Puis dans la parole de Dieu, il nous est présenté comme étant l'agent actif de Dieu. C'est comme si il est appelé dans différents versets le doigt de Dieu. C'est comme si c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Ça, on voit ça là quand Jésus il parle dans Luc 11-20, il nous dit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Puis là, le Jésus, on le sait tous, qui est né de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit que chez Marie. Puis c'est comme si le Saint-Esprit qui est le père génétique, qui est le génital de Jésus dans le corps de Marie. Marie est tombée enceinte parce que c'est le Saint-Esprit qui est chez Marie. Puis là, le Saint-Esprit, ça nous dit dans d'autres versets que Jésus était rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il a toujours accompagné Jésus. Le Saint-Esprit a toujours été là. Fait que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans sa marche. Puis quand Jésus il chassa les démons, il dit c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Le Saint-Esprit dans ce verset-là, il est appelé le doigt de Dieu. Il est la main de Dieu à l'œuvre, en train de chasser les démons, guérir les malades, ressusciter des personnes qui étaient mortes. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre à travers de Jésus pour les miracles. Mais ce n'était pas un fait connu d'appeler le Saint-Esprit le doigt de Dieu. Ça vient de l'Ancien Testament, cette révélation-là. On voit ça dans Exode 8-19. C'est eux autres les premiers qui ont mentionné ce terme-là. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi?
Avec Moïse.
Avec Moïse. Les magiciens dirent au Pharaon, quand Moïse était là, par la puissance de l'Esprit de Dieu, là, Moïse faisait des grands signes, les 10 plaies d'Égypte. Il faisait des miracles dans le pays d'Égypte pour faire sortir le peuple. Puis le Pharaon s'endurcissait, puis là, il y en avait d'autres. Puis là, pendant les premiers miracles qu'ils ont fait, le Pharaon, il a fait venir ses magiciens. Les magiciens ont commencé à faire la même chose que Moïse. Ils ont changé l'eau en sang, la même affaire, que l'eau était devenue rouge. Quel autre miracle qu'il a fait? Ils ont changé leur canne, le bâton, en serpent. Ils faisaient des signes comme Moïse le faisait par le doigt de Dieu. Sauf qu'il est arrivé un moment donné que là, Moïse il a envoyé de la poussière dans les airs, puis ça s'est changé en poux. Il a créé la vie. Puis là, les magiciens n'étaient plus capables de faire la même chose. Puis c'est les magiciens eux-mêmes qui ont dit, c'est le doigt de Dieu qui est en train d'agir. C'est ce que ça nous dit dans Exode 8-19. Et les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Là, le cœur de Pharaon s'endurcit puis n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Mm-hmm. C'est là que la première fois que le Saint-Esprit s'est fait appeler le doigt de Dieu, c'est là que c'est arrivé. Mais il y a un autre passage qui en parle dans Exode 31-18 qui nous parle que le Saint-Esprit est le doigt de Dieu. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, les tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. On voit que les 2 tables, dont tout le monde le sait, que c'est les 2 tables en pierre. Quand Moïse a monté sa montagne, a prié puis jeûné pendant 40 jours, il parlait avec Dieu, puis Dieu lui a donné comme 2 palettes de pierre. C'était comme 2 tablettes. Puis, les 10 commandements étaient écrits, il y en avait 5 sur chaque tablette. Les 10 commandements étaient écrits, ces 2 tablettes, puis c'est le doigt de Dieu qui a gravé les écrits sur les 2 tablettes. Et c'est qui le doigt de Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est le même exemple que Jésus a eu comme révélation. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Puis à une autre place, il dit vos fils, vos par fils, qui? Mais ben, le point est que le Saint-Esprit, agent invisible de Dieu, est l'agent actif, est celui qui agit dans les miracles. Il agit à travers de Jésus, il agit à travers de Moïse, il agit à travers les prophètes, les signes, les prodiges, les miracles, tout ce qui s'est produit de changement. Il est celui qui opère les choses dans la vie terrestre. C'est un agent qu'on voit pas, mais il est très actif. Il est très actif. C'est comme un agent non secret pour ceux qui le connaissent et secret pour ceux qui le connaissent pas.
Ouais.
Le Saint-Esprit, une autre chose qui est extraordinaire d'apprendre de sa part, c'est l'auteur qui a inspiré les Saintes Écritures. Dans 2 Timothée 3,16 qu'on voit ça. Mais avec trois versets qu'on va lire, là, on va comprendre vraiment comment est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur, celui qui a inspiré. C'est des humains qui ont écrit, c'est des humains qui ont pris. Mais c'était des humains qui marchaient avec Dieu, qui étaient en contact avec Dieu, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Puis quand ils ont voulu écrire les choses, ils ont été dictés, inspirés d'écrire les choses que Dieu sert de ça aujourd'hui pour nous parler. Mais si les écrits de toute la Bible sont inspirés de Dieu. 2 Timothée 3,16, ça nous dit ça. Ça nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui l'a inspirée. Puis est utile, comme je vous disais tantôt, la Bible est utile pour qu'on apprenne à connaître tout ce qui était nécessaire de connaître.
Corriger, instruire.
Exact. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Mais on a besoin d'être enseigné. Quand il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », c'est un mode de vie être chrétien. Tu as besoin d'être enseigné, puis des fois, quand tu t'ostines, tu as besoin d'être convaincu, la Bible est encore là pour te convaincre, tu as besoin aussi d'être redressé quand tu marches tout croche, tu as besoin d'être corrigé, puis tu as besoin d'être instruit dans la justice pour connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu aime pas. Si tu veux vivre selon la parole de Dieu, si tu veux l'apprendre, le Saint-Esprit est là, c'est lui qui est l'auteur, puis le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. Puis ça, on va le voir plus loin dans d'autres versets qui parlent de ce sujet-là. Mais là, je vous dis que c'est toutes les Écritures qu'on a, là, qui nous est gardées aujourd'hui, qu'on a des mains, c'est dans le plan de Dieu que la Bible nous soit parvenue. Il y a des livres, ça fait 3500 ans qui ont été écrits. C'est pas des farces, là. Quand Moïse a commencé à écrire, là, puis apparemment que le livre de Job aurait été le plus vieux de la gang, mais c'est 1500 ans avant Jésus-Christ, puis là, ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est venu, fait que ça fait au moins 3500 ans que ça a été écrit, que le Saint-Esprit a inspiré des gens depuis ce temps-là pour nous garder ce livre-là. Éphésiens 3, ça nous dit... C'est Paul qui est en train de parler, ça fait 2000 ans de ça. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère que je viens de vous écrire en peu de mots. C'est une révélation. Tout ce que les apôtres écrivaient dans les écrits, c'est des révélations. Il était à l'écoute de Dieu, il priait Dieu, puis le Saint-Esprit lui révélait la pensée de Dieu, puis là, il nous écrivait ça. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel que je viens de écrire dans peu de mots. Il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Puis là, il continue, il dit, ça n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Puis là, il nous dit, dans les temps passés, ça n'a pas été révélé jusqu'au la manière qu'on l'a aujourd'hui. Puis ça, c'est un apôtre qui parle là. C'est par révélation que j'ai la connaissance de ce que je vous écris là. Puis vous pouvez vous imaginer toute la connaissance que Dieu m'a révélée. Puis il dit, tout ça, là, c'est maintenant révélé par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révélait à Paul les écrits qu'il devait écrire quand il écrivait les lettres. Tous ces écrits, épître de Paul aux Romains, épître de Paul aux Corinthiens, la première et la deuxième, épître de Paul aux Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, à Timothée, c'est Paul qui, inspiré du Saint-Esprit, Dieu lui montra des sujets à écrire, puis ça nous est parvenu 2000 ans plus tard. Sans compter l'apôtre Jean qui l'a écrit, il y a Jude qui l'a écrit, il y a Pierre qui l'a écrit, Jacques l'a écrit, Luc nous a écrit, il y a Matthieu, Marc, puis Jean. Jean y écrit aussi l'Apocalypse, puis l'Évangile. Puis sans compter tout ce qui est révélé dans l'Ancien Testament. Mais il dit les apôtres et les prophètes de Christ sont instruits et sont révélés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui révèle. C'est une révélation. Ça veut dire, quand on parle de révélation, là, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne les idées de choses que personne ne connaissait. Pour que tu appelles ça une révélation, c'est révélé. Ça veut dire que c'était inconnu. C'était toute de la matière inconnue. Les professeurs aujourd'hui qui enseignent à l'école, ils enseignent de la matière qui est déjà connue. Ils font juste retransmettre l'information. C'est pas des révélations, à moins qu'ils soient eux-mêmes des savants. Puis que là, ils ont des révélations en faisant des recherches. Mais là, quand on parle de la connaissance de Dieu, connaître les mystères de Dieu, il y a juste le Saint-Esprit qui pouvait communiquer les révélations. C'est le Saint-Esprit qui a parlé aux prophètes de Christ et aux apôtres pour leur donner la compréhension du plan de Dieu, pour donner tous les écrits qu'on a aujourd'hui. Puis dans 2 Pierre 1:21, ça nous parle encore dans la même lignée de pensée, il dit, c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Fait que les écrits qu'on a, les prophéties qu'on a dans la parole de Dieu, c'est pas par une volonté d'homme. C'est pas un homme qui s'est assis à un moment donné et qui s'est dit, là, il faut que j'écrive de quoi d'intéressant. Là, il faut que je compose un texte comme une fiction, une légende, un mythe, quelque chose de qui va frapper l'imagination, quelque chose d'excitant, quelque chose qui va attirer l'attention. Puis là, il part puis il se crée une histoire. Non. Tout ce qu'on a comme écrit de la Bible, c'est des récits. La majorité, c'est toutes des récits de choses qui est arrivées vraiment, qui ont été écrits, des récits ont été écrits, puis il y en a d'autres, c'est des révélations que les prophètes ont reçues, des messages comme Moïse a reçu des messages de Dieu, les apôtres, les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu des messages prophétiques, des choses qui arriveraient dans ce temps-là, et des choses à venir, comme dans le temps du Messie. Il y a plein de choses qui ont été prophétisées pour le temps du Messie, puis il y a bien des choses qui ont été prophétisées pour les choses de la fin du monde.
L'Apocalypse
pour la fin des temps. Puis tout ce qui a été annoncé pour les prophéties, c'est des révélations poussées par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a poussé les gens à parler de la part de Dieu. Et lorsqu'on parle poussé, c'est que ça n'a pas été juste, dis-leur donc ça, non. C'est que les gens étaient inspirés, saisis par l'Esprit, là, il y avait comme, ils pouvaient pas ne pas en parler. C'est la bouche chaude, puis t'as une pression dans toi. Même un exemple de ça, là, tu vois le prophète Jonas, qui est un prophète de Dieu, il a reçu un message de Dieu, mais il voulait pas aller livrer le message de Dieu. Il a résisté contre Dieu, puis il s'est sauvé. Il s'est en allé ailleurs. Il a fui, il a pris le bateau, puis s'est en allé en haute mer. Il voulait pas y aller dans ce ville-là pour aller lui donner ce message-là. Dieu, il a tout fait pour l'amener. Puis ça nous dit, là, tu regardes comme faut quand c'est écrit dans le livre de Job, il est pas tellement long, 4-5 chapitres. Tu lis l'histoire de Job, puis tu t'aperçois que Job savait qu'il fuyait Dieu. Job savait qu'il y avait un message à aller livrer, puis il voulait pas y aller. Jonas, excusez. Il savait qu'il y avait un message de Dieu, puis il savait qu'il y avait un message à livrer. Il fuyait, il savait. Il le dit à ceux qui étaient sur le bateau, c'est à cause de moi qu'on est en train de... Il y a une tempête là en haute mer, parce que je fuis mon Dieu, puis je veux pas y aller. Puis eux autres, ils ont tout eu la crainte de Dieu, puis ils ont pogné Jonas, puis ils l'ont jeté dans la flotte. Mais c'était le plan de Dieu que ça se passe de même. Parce que pendant qu'il était dans l'eau, il y a un poisson qui a gobé Jonas. Puis selon la Bible, selon ce qui est écrit, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Ça a été ramené par Jésus, cette histoire-là, comme quoi que c'est un fait. Puis Jésus a dit même des exemples, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puis, dans le temps qu'il était dans le poisson, tu lis les écrits de Jonas, puis Jonas, il est mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Puis Dieu est allé y parler, est allé le rechercher là. Puis là, il a accepté de faire la mission. Dieu il a redonné la vie, puis il a fait que Jonas se fasse recracher par le poisson sur le bord de la rive, sur le bord de la ville où ce qu'il devait aller. Puis là, il est allé là, dans la ville, prêcher le message que Dieu lui a dit. Puis le message était encore 40 jours, puis Nénive va être détruite. Nénive est une ville de personnes non-juifs, c'était des païens qui vivaient là, puis c'était des ennemis du peuple juif, puis Jonas voulait pas lui prêcher le message, de peur que les gens ne se repentent et que Dieu ne les punisse pas. Il voulait que les gens payent, ils punissent. Et qu'il soit puni de Dieu. Fait qu'il a, finalement, il a prêché le message, puis finalement, les gens se sont repentis à la parole de Jonas, puis Jonas, il a pogné un arbre, puis ça l'a irrité.
Le Seigneur, il voulait pousser un arbre. Ouais. Dans un instant, en une nuit, il a fait pousser un arbre.
Ouais. Pour donner encore un message à Jonas, puis Dieu, il a poussé Jonas à aller parler de la part de Dieu. Puis c'est ça qu'on joue le point que je veux en venir. Quand t'es choisi par Dieu pour faire une tâche, même si ça te tente pas d'y aller, Dieu va t'amener à y aller. Oui. Dieu saisit des personnages. Il y a des personnages remplis du Saint-Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. Puis les écrits nous sont donnés 2000 ans plus tard. On les a encore, les écrits de la Bible, dans l'Ancien puis dans le Nouveau. Il y en a qui font 3500 ans que les écrits ont été poussés par le Saint-Esprit. Puis c'est pas eux autres qui ont décidé d'écrire c'est comme un roman, mais c'est l'Esprit Saint qui a parlé de la part de Dieu. On va le voir un peu plus loin dans l'étude, que l'Esprit Saint, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il connaît tout ce que Dieu est, puis ce que Dieu fait, ce que Dieu a comme plan, il sait tout. Puis il est capable de transmettre aux serviteurs de Dieu n'importe quel message, puis il dit même, invoque-moi, puis je te répondrai, puis je t'annoncerai des choses cachées. Dieu il est prêt à les révéler à ses serviteurs, à ses servantes, en autant qu'on a soif d'apprendre. Puis le Saint-Esprit se révèle. C'est tout ce qu'on va voir ce soir comme de l'introduction sur le Saint-Esprit. Je crois que ça va être une étude extraordinaire qui va nous bénir. Parce qu'on va apprendre à connaître celui qui nous anime. Quand tu es né de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. On va prier. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je viens te remercier pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est là puis qui nous fait du bien. Merci de nous révéler les choses cachées, des mystères cachés que le monde ne peut pas connaître. C'est quelque chose comme un trésor pour nous, que tu nous révèles la pensée de l'Esprit. Tu nous révèles qui est l'Esprit et qu'est-ce que fait l'Esprit. Ça va être extraordinaire. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur, par ce message, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.